Salut à tous et à toutes, bienvenue à Point de vue, Boris Chassagne qui vous accompagne pour la prochaine demi-heure. Au sommaire, le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel francophone d'Ottawa, solidaire pour enrayer les agressions vers les femmes noires.
On a voulu vraiment mettre de l'avant l'importance de revoir notre manière de travailler lorsque vient le temps de soutenir des survivantes d'agressions sexuelles qui vivent également du racisme.
L'incubateur québécois d'entreprise, le groupe 3737, exporte son expertise à Toronto. Plusieurs entrepreneurs répondent présents.
Qu'est-ce qu'on fait quand on veut démarrer une entreprise? Comment on réalise un plan d'affaires avec des prévisions financières? Comment on fait pour analyser son marché, pour savoir si le produit sera intéressant ou pas? Comment on s'arrange à rencontrer d'autres professionnels dans son domaine, élargir son réseau d'affaires?
Depuis 25 ans, les membres de la Swing du Sweat de Chiticamp partagent leur danse et culture acadienne avec des spectateurs du monde entier.
Je crois que tout le monde qui a passé par la Swing, on a vraiment des beaux souvenirs, puis ça a été une étape importante dans notre vie.
C'est tout à fait quelque chose qui a été comme important pour moi, puis d'être capable de représenter ma culture, puis comme avoir des opportunités de traveler, voyager, même en France, comme ça, c'est comme une belle affaire.
Et à notre radar, on se rend au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, au Québec, au Manitoba et en Ontario. Ceci est plus à Point de vue.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Merci d'être avec nous. Le groupe 3737 est l'un des plus importants incubateurs d'entreprises privées du Québec. Cet organisme sans but lucratif s'est d'abord fait la main au Québec avant de décider de s'exporter en Ontario vers la ville reine de Toronto. Le groupe 3737 aurait déjà permis à plusieurs entrepreneurs de se lancer en affaires grâce à des ateliers de formation faits sur mesure pour eux. Il vient d'en lancer un le 5 juin dernier à Toronto et spécifiquement destiné aux entrepreneurs issus de la diversité en Ontario. Le groupe 3737 a été cofondé par Vicky Joseph, PDG de V Cosmétiques, et Franz Saint-Élimi, actuel président et du conseil de l'Université de Montréal. Marine Autogali en parle avec Donald Kwaku, conseiller régional en entrepreneuriat.
Donc, un conseiller régional en entrepreneuriat, qu'est-ce qu'il fait? C'est d'accompagner des entrepreneurs à différents stages de leur entreprise. Donc, ils peuvent être juste à l'idée d'entreprise, ou ils peuvent être en croissance, ou ils peuvent être à un niveau où ils voudraient pouvoir monter leur entreprise à un niveau international. Nous, on s'assure que à chaque niveau, ils ont de l'accompagnement. Ils ont de l'accompagnement soit en français, soit en anglais.
Leur arrivée en Ontario est récente, et l'installation à Toronto a donné lieu à plusieurs nouveautés.
On s'est installé à Toronto suite à deux constats. Donc on est un organisme en français au départ, mais on s'est rendu compte que au niveau de Toronto, il y a un besoin d'organismes de suivi d'entrepreneurs en français. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, on s'est rendu aussi compte que ces entrepreneurs racialisés dont on parle, ce n'est pas seulement les entrepreneurs en français. Donc, c'est ce qui explique notre approche de donner des services et en français et en anglais à ces entrepreneurs racialisés-là. Il y a la réalité de Toronto. Si vous êtes une entreprise francophone typiquement, vous n'irez pas vraiment bien loin. Vous allez vous limiter à la communauté francophone. Donc, très rapidement, vous êtes confronté à la difficulté de rendre vos produits bilingues, vos services bilingues, et vous-même éventuellement le chef d'entreprise de pouvoir manier assez bien les deux langues pour pouvoir vous faufiler, que ce soit dans les dédales de la création d'entreprise, donc tout ce qui est bureaucratie, ou bien les présentations. Donc c'est clair que il faut quand même être à l'aise dans les deux langues de manière à ce que les deux publics, vos deux publics cibles, que ce soit en français, que ce soit en anglais, se retrouvent et ne disent pas « vous êtes uniquement une entreprise francophone ou uniquement une entreprise anglophone ». Donc c'est vraiment à l'image du Canada.
L'installation du groupe 3737 en Ontario s'est fait premièrement en famille, auprès des pairs. Puis les contacts se sont faits suite à des événements rassemblant différents organismes professionnels francophones, comme le Centre francophone ou la plateforme Réseau Immigration francophone Centre-Sud-Ouest. La formation Lancement d'entreprise que le groupe met en place est issue d'un programme qui a connu un vrai succès au Québec.
Donc ce programme Lancement d'entreprise-là va être un programme de 8 semaines ou des entrepreneurs qui sont en majoritairement au niveau de l'idée. Donc c'est vraiment des entrepreneurs en idéation, comme on appelle dans le contexte, donc qui vont venir apprendre à savoir, OK, qu'est-ce qu'on fait quand on veut démarrer une entreprise? Comment on réalise un plan d'affaires avec des prévisions financières? Comment on fait pour analyser son marché, pour savoir si le produit sera intéressant ou pas? Comment on s'arrange à rencontrer d'autres professionnels dans son domaine? Et comment on s'arrange à élargir son réseau d'affaires? Donc, ça, c'est vraiment les objectifs du programme. Vraiment, l'idée, c'est d'outiller ces personnes qui démarrent une entreprise ou qui a une entreprise mais qui est encore à l'étape de qui est petite et qu'ils veulent mieux structurer, mieux organiser pour pouvoir passer à un autre niveau.
Marie-France Mézilas-Sévère est aujourd'hui gérante fondatrice de Bouillon de Saveur. Franchir le cap, se lancer dans son entreprise, demande de sortir, de rassembler des conditions. Parfois, les raisons qui nous poussent à intégrer une telle formation sont simples. Avec le groupe 3737, les formations sont destinées à soutenir directement les communautés noires du Canada et sont gratuites, grâce à un financement du gouvernement fédéral. Ce sont tous ces aspects, et plus encore, qui ont permis à Marie de bénéficier du programme.
Je me sentais en confiance d'aller là, mais je me sens plus en confiance parce que ce sont des gens qui vivent la même réalité que moi, qui ont rencontré les mêmes obstacles que moi, donc c'est sûr que l'entraide, ça va être plus facile parce qu'on vit la même réalité.
De Toronto, Marine Otogadi parlait avec Vicky Joseph, PDG de V Cosmetics, et Donald Kouakou, conseiller en entrepreneuriat. Le Centre francophone d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel d'Ottawa lance des ateliers de formation visant à enrayer les agressions sexuelles envers les femmes noires et de couleur. Le CALACS, qui aura bientôt 25 ans, offre une multitude de services aux femmes de 16 ans et plus d'expression française ayant vécu et survécu à une agression à caractère sexuel. La Semaine des victimes et survivants d'actes criminels du CALACS francophone d'Ottawa s'est penchée justement sur cette question le 30 mai dernier. Parmi les invités du CALACS, l'autrice du livre « Le privilège de dénoncer, justice pour toutes les victimes de violences sexuelles », elle se nomme Caroline Souffrant, Madame Souffrant qui est aussi doctorante en travail social à l'Université d'Ottawa, cherche à comprendre pourquoi les femmes et les filles noires sont largement absentes du débat public lorsqu'il est question de violences sexuelles. Notre reporter Marie Hillès est en compagnie de Caroline Souffrant.
Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de diversité puis de représentation quand on parle de violences sexuelles puis de femmes noires. Fait que j'ai voulu mettre un visage sur une réalité qui existe parce que je l'ai moi-même vécue. Donc j'ai voulu aider, peut-être qu'une personne puisse se reconnaître en moi peut-être puis se sentir moins seule ou chercher de l'aide ou du soutien. Puis aussi aider les intervenantes aussi à penser à certains enjeux.
Elle est aussi autrice du livre « Le privilège de dénoncer, justice pour toutes les victimes de violences sexuelles ». Le livre traite le mouvement MeToo avec un angle antiraciste, féministe et intersectionnel.
Quand on parle de violences sexuelles, il y a une stigmatisation qui vient avec ça pour tout, n'importe qui vit ces violences-là. Donc, il y a beaucoup de honte, de culpabilité. Donc, c'est très dur d'en parler pour n'importe quelle survivante. Il y a aussi l'aspect que quand on parle du mouvement MeToo, bien que c'est un mouvement qui a été fondé par une femme noire au départ pour les communautés noires en 2006 et pour des personnes de milieux défavorisés, en devenant viral en octobre 2017, ce que ça a fait, c'est que ça a vraiment effacé les femmes noires et racisées qui sont à l'origine du mouvement. Et donc, c'est toujours une dynamique d'effacement, d'invisibilisation qui provient souvent. Puis dans les médias, ou que ce soit dans les luttes féministes aussi, on voit beaucoup les choses en silo au lieu de les voir de manière intégrée, tout ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Dans les luttes antiracistes aussi, on ne parle pas beaucoup des violences qui sont commises envers les femmes noires dans les milieux antiracistes. Et au niveau du mouvement féministe, on se préoccupe beaucoup des préoccupations des femmes blanches en général. Donc le fait qu'on travaille en silo, bien, ça invisibilise les femmes qui sont à la croisée de comme plusieurs systèmes d'oppression, qui sont femmes et noires et qui vivent des réalités particulières parce qu'elles vivent les deux en fait.
Elle explique les enjeux qu'il y a quand on parle des femmes noires.
quand ça se produit dans la même communauté, quand on présente la police comme la seule option puis la première option, bien en fait, ce que ça fait, ça silence beaucoup de femmes parce qu'il y a tous les enjeux de profilage racial, des personnes noires dans les prisons qui sont un peu surreprésentées. Et donc, ça peut être vu comme une trahison envers la communauté de dénoncer un homme de sa communauté à la police. Donc, ça, c'est compliqué de négocier ça. Puis, il y a des femmes qui vont décider de se taire pour protéger le groupe, même si elles ont vécu quelque chose qui n'était pas correct puis qu'elles n'auraient pas dû vivre. Mais c'est vraiment une négociation que beaucoup de femmes font quand elles vivent ces violences dans les communautés. Puis aussi, il y a un historique aussi au niveau de l'esclavage, de la colonisation aussi, qui explique beaucoup pourquoi les femmes noires vivent ces violences-là également.
Gabrielle Pelletier est la coordinatrice communautaire au CALAX francophone d'Ottawa. Elle souligne l'importance d'organiser des formations comme celle d'aujourd'hui.
Aujourd'hui, on a décidé de se pencher sur les femmes noires et les femmes racisées victimes d'exploitation sexuelle et d'agression à caractère sexuel. On a voulu vraiment mettre de l'avant l'importance de revoir notre manière de travailler lorsque vient le temps de soutenir des survivantes d'agression sexuelle qui vivent également du racisme. C'est pas nouveau qu'on reçoit des demandes de services de la part des survivantes noires de femmes racisées, mais la pandémie elle a comme augmenté les demandes dans ce sens-là. Fait que pour nous, c'était important d'avoir un espace où est-ce que c'était des femmes noires, des femmes racisées qui venaient nous parler du parcours de vécu de femmes noires, de femmes racisées en matière d'agression et d'exploitation sexuelle.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui est différent chez les femmes noires racisées que chez les femmes blanches?
Bien sûr, oui, 100%. Puis aujourd'hui, la journée, elle a vraiment mis ça en relief, là. Tous les impacts au niveau de la santé, tous les impacts au niveau social, économique, politique. Je veux dire, depuis ce matin, on a des femmes exceptionnelles qui viennent nous parler de ça et qui sont carrément centrées sur le vécu de ces survivantes-là. Alors, c'est important de leur donner un espace pour qu'on les entendre, pour qu'on les écoute et pour qu'on regarde comment on va donner plus de pouvoir à ces femmes-là, donner plus de ressources puis de prendre tout ça en considération quand on les appuie comme intervenantes, comme intervenants. Puis aujourd'hui, c'est une belle preuve de ça. On a plein d'intervenantes et d'intervenants de la communauté francophone d'Ottawa qui ont à cœur de revoir leur façon de travailler, leur façon de faire, puis de vraiment partir de tout ce qui pèse dans la balance lorsqu'on vit non seulement les agressions à caractère sexuel, mais les conséquences du racisme, du colonialisme, oppression, etc.
Le CALAX francophone d'Ottawa est un organisme féministe géré et opéré par et pour les femmes. Dans ses revendications pour la justice sociale, il dénonce les agressions à caractère sexuel et lutte pour l'égalité et les droits des femmes. Il offre une multitude de services aux femmes survivantes. Il s'engage activement à la prévention et la sensibilisation dans la communauté.
C'était un reportage de Marie Hillès pour IGL à Ottawa.
Féministe solidaire, infatigable guerrière, demande un pour l'égalité.
Bonjour, ici Julie Desalliers au Nouveau-Brunswick. Vous écoutez Point de vue.
De danse acadienne, la Swing du Sweat roule sa bosse depuis 25 ans et compte bien souligner l'événement le dimanche 11 juin. Cette troupe de danse composée d'élèves de l'école NDA de Chéticamp, Nouvelle-Écosse, présente une variété de danses inspirées des cultures acadiennes et celtiques du Cap-Breton. Au cours des 25 dernières années, la troupe s'est rendue dans de nombreuses écoles pour promouvoir cette forme d'art si bien ancrée dans la culture acadienne. Depuis sa fondation, la Swing du Sweat s'est produite dans les Maritimes, au Québec, en Louisiane et en France. Christine Doucet, directrice de la troupe, estime que la Swing du Sweat a contribué au fil des ans à l'épanouissement de centaines de jeunes de la communauté et au développement des arts dans la région. Notre journaliste Daniel Aucoin revient sur les 25 ans de la troupe avec donc Christine Doucet, directrice actuelle de la troupe, et l'une des danseuses, Émilie Doucet, élève de 12e année de l'école Notre-Dame de l'Annonciation de Chéticamp, une école francophone du Conseil scolaire acadien provincial de la Nouvelle-Écosse.
Je crois que c'est vraiment important. C'est une activité qui est vraiment populaire pour les jeunes de l'école NDA. On est une petite école, mais on a beaucoup, beaucoup de danseuses puis des danseurs aussi à l'école. Ça fait que dans les 25 années, il y a des centaines d'enfants qui ont passé par la swing. Ça nous a donné la chance d'apprendre à danser premièrement, mais aussi de se présenter sur un estrade, de faire des spectacles un peu partout, de faire des voyages. Fait que je crois que tout le monde qui a passé par la swing, on a vraiment des beaux souvenirs, puis ça a été une étape importante dans notre vie.
Pour moi, ça a tout le temps été important. Comme y a qu'avoir l'opportunité de danser à toutes les semaines, à tous les ans, c'est tout le temps quelque chose qui a été comme important pour moi. Puis d'être capable de représenter ma culture, puis comme avoir des opportunités de traveler, voyager, même en France, comme ça, c'est comme une belle affaire. C'était vraiment important.
Pendant 25 ans, la troupe de danse La Swing du Suède a présenté des spectacles à Chétika, mais aussi ailleurs au Canada et à l'étranger. La directrice Christine Doucet nous parle de l'importance de la troupe de danse comme diffuseur des cultures acadiennes et écossaises.
Oui, oui, on est souvent demandé de... On a comme deux choses qu'on représente. Comme des fois, on est invité pour représenter la culture acadienne, comme participer à des festivals acadiens. Puis là, des fois, c'est plus comme pour la culture celtique aussi, parce que notre danse est inspirée de la culture du Cap-Breton. Ça fait qu'on a des opportunités de voyager, comme par exemple en France, c'était à la semaine acadienne. Fait qu'on avait participé à ça, mais là, comme on a été en tournée avec les Bear McNeils, par exemple. Fait qu'on a toutes sortes d'opportunités qui se présentent.
Si la troupe de danse a beaucoup évolué au cours des 25 dernières années, c'est surtout grâce à l'appui des parents et des gens de la communauté. Christine Doucet nous explique que les gens de la région de Chétikan sont toujours là pour appuyer la swing du Suède.
Oui, certainement. Comme la swing, c'est des enfants qui dansent, mais c'est aussi tout un comité de parents qui organise des prélèvements de fonds. Comme pour les gens qui viennent au spectacle, vous voyez les parents en fait vendre des 50-50, vendre des bouteilles d'eau, vendre des fleurs, ils sont à l'arrière-scène. Fait que ça demande les parents et les familles, c'est un engagement aussi, mais aussi toute la communauté qui vient à nos spectacles, qui nous appuie dans nos prélèvements de fonds, dans tous nos projets. Oui, on peut vraiment dire, puis on a vraiment l'impression que la communauté nous supporte, puis on apprécie énormément ça.
Plusieurs anciens membres de la troupe de danse seront présents ce dimanche 11 juin lors du spectacle soulignant le 25e anniversaire de la Swing du Suède. Deux représentations sont prévues à la Place des Arts Père-Anselme Chiasson.
Bonjour à tous, ici Pénélope Clermont à Tête à la baleine en Basse-Côte-Nord. Vous écoutez Point de vue.
Tous nos yeux sont maintenant tournés vers notre radar pour voir ce que les ondes radioélectriques ont repéré dans l'actualité de canada-info.ca. On se rend sur la Basse-Côte-Nord d'abord, plus précisément à Tadoussac, où s'organisaient des ateliers destinés à favoriser l'intégration et le développement des nouveaux arrivants dans la région. Ces ateliers présentés dans le cadre du programme d'appui aux collectivités mettaient en scène de nouveaux citoyens, de même que des représentants de la société d'accueil. L'objectif étant de partager leurs expériences et de faciliter l'intégration des plus récents citoyens canadiens, parfois venus de loin. Maxime Jodoin est aux Escoumins. Il est en compagnie d'une nouvelle arrivante dans la région.
On a déjà parcouru quelques municipalités et c'est très important parce que ça nous donne quand même l'opportunité de nous exprimer, de donner nos idées sur le projet, de contribuer à un moment donné là, avec ce qu'on pense. Moi, je viens d'arriver. Je suis arrivée, ça fait à peu près une année. Franchement, je me sens bien parce que effectivement, quand je suis arrivée, je ne connaissais personne. Mais j'ai eu la chance de rencontrer des résidents qui m'ont pris sous leur aile, qui m'ont permis de rencontrer d'autres résidents. Et franchement, ça se passe super bien.
La ville d'Edmundston était l'hôte du premier sommet sur la croissance des entreprises du Nouveau-Brunswick. C'était le premier de 5 mini-sommets itinérants d'une journée qui se déplaceront à travers la province d'ici la fin de l'année, soit le 14 juin à Bathurst, le 21 septembre à Moncton, le 7 novembre à Fredericton et le 29 novembre à St. John. Comment créer des communautés et des milieux de travail inclusifs, attirer des employés de type A, favoriser l'innovation, les meilleures pratiques éco-énergétiques ou développer des stratégies de croissance et des pratiques de mise en marché? Mais voilà autant de thématiques qui ont et seront abordées lors de ces sommets sur la croissance des entreprises du Nouveau-Brunswick. Plus d'une centaine de personnes ont assisté à ce premier sommet à Edmundston. Notre journaliste Mathieu Janvier n'a pas raté le coche et en parle avec Sébastien Modéré, directeur du développement chez Computech à Edmundston.
Il y avait plusieurs thématiques comme les ventes, l'innovation et la productivité par exemple. Et puis ce qui était intéressant, c'est qu'on a pu rencontrer des experts, des conférenciers, des spécialistes dans ces domaines-là qui pouvaient échanger avec nous, qui nous donnaient un petit peu leur retour, leur expérience et puis des conseils pour tout ça, parce que c'est vrai qu'on est une province en plein boom avec beaucoup de changements encore dans les années à venir. Ça donne des pistes. Moi j'ai assisté par exemple à un atelier sur l'innovation et un autre sur la productivité, et puis bien évidemment on a des conseils, il y a des entrepreneurs qui sont là qui donnent également leur expérience, et puis on échange en fait sur différentes choses, donc c'est intéressant, ça donne pas mal d'idées. Après il faut mettre tout ça en place et puis aller de l'avant.
Bonjour, ici Sébastien Beltran à Halifax. Vous écoutez Point de vue, suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI et écoutez nos reportages sur canada-info.ca.
On reste dans les maritimes et en Nouvelle-Écosse cette fois pour vous dire que M. Jules Chiasson accède à la direction générale de la Fédération acadienne. Il s'agit d'un retour pour lui dans sa province natale et cet organisme pour lequel il avait travaillé il y a près de 40 ans. Il succède à Marie-Claude Rioux qui a occupé ce poste au cours des 10 dernières années. Jules Chiasson est un homme d'affaires assez connu qui a fait carrière notamment à Radio-Canada où il a occupé divers postes de direction. Il a également été le directeur général du Conseil communautaire du Grand Havre à Dartmouth pendant plusieurs années. Jules Chiasson se dit très heureux de revenir travailler au développement de la communauté acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse, pour laquelle il a d'ailleurs bien des projets.
En 2011, selon Statistique Canada, il y avait 34 585 francophones qui disaient de langue première en Nouvelle-Écosse. En 2021, c'était à peu près 29 000. On voit qu'il y a une diminution, il y a une certaine assimilation. Par contre, on constate qu'il y a presque 100 000 personnes qui parlent le français en Nouvelle-Écosse. Il y a de plus en plus d'anglophones qui apprennent la langue française. Ici même, à Halifax, il y a 7 à 8 000 écoles d'immersion en français. C'est plus que la population scolaire du CSAP. Et c'est des jeunes qui veulent apprendre le français, qui sont intéressés à la culture française. Alors, il y a de plus en plus de francophiles. Il y a aussi des immigrants. Les immigrants qui arrivent en Nouvelle-Écosse, il faudrait que la portion d'immigrants par rapport aux immigrants anglophones, il faudrait l'augmenter, parce qu'on a constaté que, selon Statistique Canada, en 2011, sur 11 immigrants, il y en a seulement un qui parle français. Alors, il faut vraiment augmenter la portion d'immigrants francophones. D'autres dossiers, c'est celui de la révision de la loi sur les services en français. Ça fait passer 10 ans, on n'a pas révisé. Il faut vraiment revoir cette loi-là.
Et au Manitoba, on se prépare à mettre en route le Festival du patrimoine de la municipalité rurale de Montcalm à Saint-Joseph les 10 et 11 juin. Le festival honore le riche patrimoine agricole et les traditions culturelles de la région. Il permet de découvrir l'histoire et le mode de vie des premiers fermiers et pionniers. Camille Fizette-Muller, directrice générale du festival, souligne que ce sera une expérience intéressante pour tout le monde. Elle est au micro de Iman El Hadji.
Malgré la superficie de la communauté de Saint-Joseph, le défilé est très long. C'est super parce qu'il y a les machines, les antiquités, les tracteurs, les combines, les engins stationnaires qui font partie du défilé. Alors, ça fait intéressant de voir fonctionner, de voir rouler au moins ces machineries-là qui sont antiques, qui sont vieilles. Avec l'exposition des machines antiques, ça donne un goût aux gens de voir de vivre un peu qu'est-ce que c'est que c'était l'agriculture en comparaison à aujourd'hui. Puis juste de venir à Saint-Joseph entouré de ces vastes champs, c'est super beau, c'est plaisant. Puis on est dans le cœur de l'agriculture ici. C'est un événement majeur culturel. Ça a commencé comme un cyclothon, comme prélèvement de fonds pour le musée. Et puis, ça l'a évolué. Puis maintenant, on accueille 3000 personnes pour venir fêter avec nous dans la communauté de Saint-Joseph.
Et on a souligné en Ontario en juin les qualités du canard et des volailles sous toute leur couture au Festival du canard et de la plume du Club optimiste de Saint-Isidore. Le festival, qui en est à sa seconde édition, met en valeur le travail des producteurs de canard et de volailles de la région. Alors, de la ville d'Embrun, en Ontario, voici Rose Grisla, en compagnie de Stéphanie Kennel, présidente du Club optimiste de Saint-Isidore.
Oui, donc c'est les fameux rubber duckies, là, les petits canards pour le bain. Donc, chaque canard est numéroté selon le billet qui est acheté. Et c'est un partenariat avec les pompiers de Saint-Isidore, l'Association des pompiers de Saint-Isidore, qui tous les canards sont mis dans un gros réservoir. Et au final, le réservoir est renversé et tous les canards tombent dans notre rivière à et les pompiers, avec leur boyau d'arrosage, vont faire avancer les canards. Et le but, c'est de... Le premier canard qui arrive au bout de la rivière, c'est notre canard gagnant. Donc, le canard gagnant se mérite la moitié des profits amassés durant la vente des billets. Le deuxième prix, c'est 300 $ et le troisième prix, c'est 200 $ Donc, c'est un bel événement et tout le monde est situé autour de la rivière et regarde les canards avancer.
Oh, rubber ducky, you're the one. You make bath time lots of fun. Rubber ducky, I'm awfully fond of you. Bo, bo, bo-dee-o. Rubber ducky, joy of joys. When I squeeze you, you make noise. Rubber ducky, you're my very best friend, it's true. Oh.
Qui complète cette 70e édition de l'émission Point de vue. On remercie nos invités et nos journalistes surtout, Iman Elagi, Rose Grisla, Mathieu Janvier, Marie Hillès, Marine Autogali et Daniel Aucoin, coordonnateur national Stéphane Bénard. Point de vue est une production du Fonds canadien de la radio communautaire. Salutations à nos auditoires touchés de près ou de loin par cette terrible saison des feux à travers le pays. Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Merci d'être là et à la semaine prochaine.
Sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.